France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, on a tiré sur Andy Warhol. Le 3 juin 1968, une femme pénètre dans la célèbre factory de l'artiste et lui tire dessus. 3 balles. L'une d'elles transperce son buste et le laisse pour mort avant que les médecins ne parviennent à le réanimer. Mais l'affaire est grave. On vient de toucher au maître du pop art, qui, en cette fin des années 60, œuvre comme un prophète. Musiciens, plasticiens, cinéastes, tous se réclament de sa modernité. Alors, pourquoi cette jeune femme l'a-t-elle visée? Bientôt, on découvre qu'elle fréquentait la factory et qu'elle avait tourné dans l'un de ses films. On parle donc d'une vengeance d'actrice. Mais elle rectifie, non, elle n'est pas actrice, elle est écrivaine. Et c'est à ce titre qu'elle voulait tuer le grand maître. Son œuvre à elle tient en 4 lettres, SCUM, S-C-U-M, un manifeste politique de 16 pages A4, aux phrases courtes et ultra-violentes, dans lesquelles elle taille en pièces la condition masculine et appelle à éradiquer les hommes de la surface de la Terre. Mais pourquoi a-t-elle voulu faire payer la note à Andy Warhol? Notre invité aujourd'hui, le biographe Jean-Noël Liot, auteur du livre Andy Warhol, Renard Blanc, paru aux éditions Alary en 2021. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Sleek, arrogant, a different breed of chow mein.
The wind will blow away, the sun will shine again.
New York, été 67. Le plus emblématique des albums des Beatles vient de sortir. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui incarne presque à lui tout seul toutes les tendances de cette époque florissante des années 60. Oui, presque. Car un autre album, The Velvet Underground, un Nico, vient d'arriver chez Lisker et d'emblée son style ombrageux détonne. Nous sommes en pleine période hippie, mais les membres Velvet sont déjà passés à autre chose. Summer of Love, incarné par les Beatles, All You Need Is Love, eh bien eux, ils n'y croient pas. Non, ils préfèrent chanter les amours déchirantes, les drogues dures ou, comme ici, le sadomasochisme. En somme, chanter une Amérique dangereuse et déclinante. Une vision proto-punk qui a d'emblée intrigué un homme à l'allure originale. Mince, taiseux, tout en lunettes fumées et perruque argentée, son nom, Andy Warhol. Sa notoriété est immense.
Coca-Cola, Coca-Cola, things are right. God made it, so I drink so much of it, and I painted it, and I really love it, and I save every bottle.
Illustrateur de génie pour le magazine Glamour, dans les années 50, il a séduit le monde de l'art en y accolant l'idée de marketing de masse. Et le pop art est né. Partout, ses sérigraphies de Marilyn ou d'Elvis s'imposent. Des portraits aux couleurs venimeuses et flashy, où les stars sourient façon Joconde. Répondant à un journaliste qui lui demande « Qu'est-ce que c'est le pop art ?» La réponse de Warhol est simplement « Non ». Une réponse géniale, quoi. Un vrai happening. Sans parler de ces séries de boîtes de soupe Campbell's ou de Coca-Cola qui elles aussi interrogent et se vendent par milliers. C'est Eleanor Ward, de la galerie Stable, qui en 1962 l'avait repéré. Elle lui avait dit « Tu aimes quoi, toi? L'argent? Eh bien, plein de l'argent !» La suite, c'est Valérie Duponchel qui nous la raconte dans le Figaro.
Andy Warhol, c'est un nom qui claque comme le bruit des dollars, qui brille comme la société de consommation. Celle croquée dans d'énormes tableaux codés et flashy, qui tranchent comme autant de transgressions. Des transgressions mises en scène dans une factory libertaire, tapissée de papier d'argent.
Feuilles d'aluminium accrochées au mur, volumes immenses, la factory est une ancienne usine à chapeaux, reconvertie par Warhol en résidence pour artistes en tout genre. Chanteurs, cinéastes, underground, queer, tous sont accueillis à bras ouverts par le maître. pourvu qu'il ou elle parvienne à l'étonner. C'est ainsi qu'en 3 ans, la renommée de cette factory dépasse les frontières du pays. Au point que l'ORTF y envoie l'un de ses reporters, qui visiblement peine à comprendre la scène à laquelle il assiste.
Chez Andy Warhol, le roi de l'opard et de l'underground movies. L'underground movies, c'est le cinéma des profondeurs. Un cinéma absurde, négatif et signifiant tout de même, paraît-il. C'est la grande vogue ici. On voit pendant 90 minutes un homme qui dort, un long baiser de 115 minutes, ou encore une délicieuse prêtresse qui répète inlassablement « Allô, Plazaet ».
Allô, Plazaet.
Mais qui est cette fille qui répète « Hello, Plazaet » inlassablement? C'est Nico, la mannequin allemande que Warhol a imposée au sein du Velvet Underground. Et voilà que dans ce film expérimental, Andy la transforme en actrice, parce que tout est possible avec lui. D'ailleurs, il le dit lui-même, il aime surprendre, jouer sur l'aplomb de sa génération et sur la fin des certitudes. Voilà pourquoi les jeunes rêvent d'être adoubés par lui. Plus qu'un sésame, c'est la possibilité de devenir une superstar, dans un pays où chacun veut s'offrir ce que l'autre possède déjà, qui en voudra toujours plus. C'est ainsi que certains artistes se font connaître. Parmi eux, Ultraviolet, Viva ou Joe D'Alessandro, que l'on retrouvera 10 ans plus tard chez Gainsbourg, dans son film lui aussi très underground, Je t'aime moi non plus. Car Warhol le répète, bientôt chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité, alors pourquoi s'en priver? Souvent, tous se retrouvent à l'hôtel Chelsea, un endroit mythique. Depuis des décennies, on y accueille des artistes et on ferme les yeux sur les notes impayées. Nombre d'icônes y sont passées. Frida Kahlo, Chet Baker, Arthur Miller, Jack Kerouac, Bob Dylan et la grande Patti Smith, qui elle aussi est passée par là.
J'ai adoré cet endroit, son élégance un peu délabrée et l'histoire qu'elle abritait avec tant de ferveur. Tant de gens avaient écrit, conversé et vibré dans ses pièces aux allures de maisons de poupées. Tant de jupes avaient bruissé sur ses marches de marbre. Tant d'âmes de passage s'étaient épousées, avaient laissé leur empreinte et avaient succombé ici.
En 67, parmi ces âmes de passage dont parle Patti Smith, il y a cette femme aux cheveux courts et au béret vissé sur la tête. Elle se nomme Valérie Solanas, et Andy Warhol ne la connaît pas encore. Elle a 30 ans, des boucles brunes, une allure frêle et un regard incandescent. À savoir qu'elle ne ressemble pas au fil d'époque, qui façon Jane Fonda ou Françoise Hardy porte des mini-jupes, des cheveux longs et abuse des mascaras, non. Ici, avec Valérie Solanas, c'est Arrow sur la féminité. Quant à la nonchalance des hippies, très peu pour elle. Elle, c'est plutôt une forme d'urgence qui l'habite. Chaque jour, elle se démène pour survivre, sort de l'hôtel Chelsea d'un pas pressé, s'en va acheter des cigarettes, revient et s'enferme dans sa chambre pour écrire. Mais parfois, lorsque les temps sont durs, elle monte jusqu'au rooftop où, pour quelques dollars, elle se prostitue. En vérité, elle vient de se faire virer de l'hôtel Earl et elle n'a plus d'argent. C'est dommage, elle aimait bien cet hôtel. Il offrait une aile entière aux gays et aux lesbiennes. C'était parfait, car les hommes, elles s'en méfient comme de la peste. À ses yeux, le genre masculin est si toxique qu'il faudrait le bannir de la surface de la Terre. Ce projet eugéniste, elle le théorise dans le livre qu'elle est en train d'écrire. Son nom, Scum, qui signifie « déchet ». Mais c'est aussi l'acronyme de Society for Cutting Up Men, Société pour tailler les hommes en pièces. Autrement dit, les priver de l'organe qui les gouverne, vous voyez ce que je veux dire. Une pensée qui commence par ces mots.
Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mâle est un accident biologique.
Chambre 606 de l'hôtel Chelsea, une machine à écrire crépite. Valérie Solanas a la fièvre. Elle le sait, son œuvre est révolutionnaire. Personne n'est allé aussi loin qu'elle. Elle va renverser la table. D'autant que, dans ses tiroirs, elle a aussi une pièce de théâtre. Son titre, Up Your Ass, ce qui signifie quelque chose comme dans ton cul. Comme ça, c'est clair. Il défile des hommes pathétiques, des drag queens acariâtres et une mère de famille déprimée qui finit par étrangler son exhibitionniste de fils, le tout raconté par une certaine Bungie Perez, copie conforme de Valérie Solanas. Mais hélas, l'autrice n'a aucun contact et elle se sent si seule. Car enfin, qui contacter? Les théâtres et les maisons d'édition sont tous dirigés par des hommes. Aucun ne voudra défendre son projet. Ce serait une sorte d'auto-émasculation. En tout cas, le lien avec Andy Warhol va se nouer grâce à Candy Darling, icône transgenre et gérie de la Factory. C'est elle qui suggère à Warhol de la produire. Elle lui raconte le mélange des genres, l'émulation artistique, les fêtes incessantes. Éric de Saint-Angèle en fait la description dans le Nouvel Observateur.
À la Silver Factory, au troisième étage du 231 East 47e rue, les âmes perdues y sont accueillies à bras ouverts. Mais aussi les acteurs séduisants, les jeunes femmes prometteuses, les poètes et les mannequins, les cinéastes expérimentaux et les déjantés, les travestis, les brillants causeurs et les musiciens. L'atmosphère est toxique, brillante, sensuelle, stimulante. Warhol, qui ne supporte pas la solitude, a besoin de ce vivier. Un espace est dévolu à la peinture, un autre aux interviews audio, un autre aux interviews filmées, et la mécanique tourne inlassablement. Le maître des lieux a une vision globale, polémique et très personnelle de l'art. Il veut également gagner le plus d'argent possible, car le pouvoir est inséparable de l'argent.
Le pouvoir inséparable de l'argent, certes. Mais hélas, Valérie méprise les hommes, et plus encore les hommes de pouvoir. Elle explique dans son livre « Ce que Scum veut, c'est démolir le système et non obtenir certains droits à l'intérieur du système. » Voilà pourquoi elle préfère le vendre elle-même son livre et dans la rue. $1 pour les femmes, 2 pour les hommes. Elle tente même de monter une association, ou devrait-on dire une armée, pour défendre son projet de liquider les hommes. Mais qui la rejoint, mis à part quelques camarades névrosés? Même les féministes les plus aguerris peinent à se reconnaître dans sa radicalité. Elle s'empare de son texte, le lise, puis lui tourne le dos. Valérie le reconnaît elle-même, j'étais une lutte armée sans troupes. Alors, que faire? Entrer à l'intérieur du système? Finalement, pourquoi pas, hein? Rien de pire que les remords. Alors à la guerre comme à la guerre, va pour Andy Warhol. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, on a tiré sur Andy Warhol.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Nous sommes en 1967 et la Factory tourne à plein régime. Valérie Solanas l'avoue, l'ambiance y est plutôt bonne. D'autant que Warhol semble intéressé par elle. Lui qui aime l'originalité, il est servi. Chaque soir, sa bande le rejoint au Max Kansas City, un resto branché où il tient table ouverte. Et parmi ses fans, il y a Valérie. Alors, de quoi se parle-t-il lorsqu'ils sont ensemble? Lui raconte-t-il son enfance misérable? Peu probable. Il prétend ne venir de nulle part. Et rares sont ceux qui savent qu'il a grandi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, une ville nuageuse, industrieuse. On la surnomme « The Steel City », la ville de l'acier. Et c'est là, dans une aciérie, que son père, Andrzej Warhola, émigré des Carpates, trouve un job dans les années 20. À ses côtés, sa femme Julia, flanquée de ses trois fils, dont Andy, le petit dernier. Dans son livre intitulé « Warhol », publié chez Flammarion en 2001, Michel Nuritzani écrit « Andy Warhol fut un bébé de 2 kilos à peine, né dans un foyer modeste de Pittsburgh, où l'on mange à sa faim, certes, mais où on ne sait pas à quoi ressemble un dessert, et où, chaque nuit, les trois garçons dorment dans le même lit. Une famille pauvre, donc, mais aimante et très pratiquante. Chaque dimanche, on parcourt des kilomètres pour assister à la messe de l'église orthodoxe Saint-Jean Chrysostome. Et c'est là que se forge sa fascination pour les portraits. Icônes en série, vitraux imposants, univers doré, tout l'inspire. Tout comme en parallèle, les comédies musicales de l'époque. Surtout celles avec Judy Garland et Shirley Temple, les enfants stars des années 30.
Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon. Beyond the rain.
Que de poésie dans ses films. D'autant qu'Andy est un enfant malade, atteint de la danse de Saint-Guy, une maladie qui engendre des tremblements dans le corps. Alors il reste au lit, dessine et rêve de devenir lui aussi un artiste. Combien de temps a-t-il conservé cette photo dédicacée par Shirley Temple qu'il a reçue par la poste? Ce jour-là, il toucha le monde des stars du bout des doigts.
Oscar night at Hollywood and Vine. Color, glamour, and excitement. Dr. Ralph Bunche of the UN presents the Best Picture Oscar to Daryl Zanuck for All About Eve. Then for Best Actor, Helen Hayes announces...
The winner is Jose Ferrer.
Mais ses rêves d'enfant sont passés sous silence à la Factory. Tout juste sait-on qu'il a obtenu une bourse à l'université Carnegie Tech pour suivre des cours d'art appliqués. Avant de monter à New York, une vraie success story que ne partage pas du tout Valérie. Pourtant, elle a fait des études, elle aussi, elle est intelligente. Elle est même allée jusqu'au master de psychologie à l'université du Maryland avant de décrocher. Marre de toutes ces bourses confiées à des hommes, marre de voir ses projets de recherche lui passer sous le nez. Car elles ne sont pas nombreuses, les femmes, à tenir la barre des études. La plupart ne sont là que pour se cultiver en attendant de se marier. Ce qui n'est pas du tout la cam de Solanas. Le mariage? Hors de question. Elle a bien vu comment se conduisent les hommes dans la sphère intime. Et ses souvenirs sont insoutenables. Elle naît en 1934 et passe ses premières années dans une station balnéaire du New Jersey. Son père, Denis, est barman dans un grand hôtel du front de mer. Sa mère, Dorothy, n'a que 18 ans. La suite, on la retrouve sur Arte. Dans le documentaire, j'ai tiré sur Andy Warhol, réalisé par Ovidi et produit par Magneto Press.
J'avais 4 ans quand ils se sont séparés et qu'ils nous ont envoyé ma sœur et moi chez nos grands-parents maternels à Atlantic City. On m'a dit que quand j'avais 5 ans, mon grand-père me frappait avec sa ceinture et qu'au lieu de pleurer, je restais debout face à lui, en riant. Quand j'ai eu 6 ans, mon père a demandé à me garder une journée par semaine. Tous les dimanches, j'allais chez lui avec ma sœur. Mais c'était avec moi qu'il voulait rester. Et tous les dimanches, il m'enfermait avec lui, dans sa chambre.
De la violence, de l'inceste et un sentiment de peur constant. Puis c'est l'horreur de tomber enceinte, à 14 ans, de son propre père. Réaction de la famille, faire croire que l'enfant est celui de Dorothy, sa mère. 2 ans plus tard, elle tombe à nouveau enceinte d'un type de passage. Mais cette fois, elle décide de confier l'enfant à une famille adoptive en échange du paiement de ses frais d'entrée à l'université. parce que tout est bon pour s'affranchir et pour acquérir un vrai métier. Malheureusement, là encore, elle déchante face à la misogynie ambiante. Voilà pourquoi elle décide de tout plaquer, de rejoindre New York et d'écrire, pour se venger. Oui, écrire de façon existentielle, cathartique, pour ne pas sombrer. Alors, Warhol acceptera-t-il de produire sa pièce ? Les semaines passent, et soudain, plus aucune nouvelle. Pourtant, ce titre, Up Your Ass, il lui avait bien dit qu'il le trouvait génial. Alors, où est le problème ? Se pourrait-il que lui aussi se soit moqué d'elle ? En vérité, durant cette année 67, Warhol le sait, il n'est pas en odeur de sainteté avec les autorités qui voient dans sa factory un dangereux repère de drogués. Il l'avouera en 1980 dans ses mémoires. J'ai rapidement jeté un œil à sa pièce et c'était si obscène que j'ai cru qu'elle travaillait pour la police et qu'il s'agissait d'une sorte d'incitation au délit. Autrement dit, la pièce de Valérie Solanas est trop transgressive pour la déjà très transgressive factory. Alors il joue la montre. Puis, lorsqu'elle vient aux nouvelles, il lui ment. Ta pièce ? Ah oui, Up Your Ass, j'ai dû l'égarer, mais je te propose un rôle dans mon film. I'm a Man, c'est bien ? Eh bien, va pour le film dans lequel elle improvise un dialogue avec un obsédé sexuel dans un escalier. Extrait.
Where's your car?
Right here. This is
okay.
Let's see. Oh, I have you
now. Bring a bunch of somebody to your room, man.
What am I doing up here with a finko like you? You finko like you.
Qui imagine que derrière la voix de Valérie, la colère à ce point turbine? Car enfin, est-ce une plaisanterie? Andy ne l'a payé que 25 dollars alors qu'il est richissime. Et puis rien. Non, il ne se passe plus rien. Ne lui reste que son scum pour exprimer sa rage.
L'homme est rongé sans relâche par l'amertume de n'être pas femme et d'être incapable d'éprouver plaisir ou satisfaction. Il est ravagé de haine. Non de cette haine rationnelle que l'on renvoie à ceux qui vous insultent ou abusent de vous, mais d'une haine irrationnelle qui frappe sans discernement. Haine, au fond, dirigée contre lui-même. La violence gratuite prouve qu'il est un homme tout en servant d'exutoire à sa haine. Et puisque l'homme n'a de réaction que sexuelle et qu'il faut des stimulants vraiment puissants pour exciter ce mort-vivant, elle lui procure sexuellement un petit frisson. Une poignée de scum peut prendre le contrôle du pays en l'espace d'un an.
Jour après jour, le désir de Valérie se précise. Liquider tous les hommes de la Terre et ne garder que des femmes qui partagent son avis. Ce qui peut faire du monde. Et les autres femmes, les filles à papa, sortes de collabos à bannir. Enfin, pour ce qui est de la reproduction d'espèces, rien de plus simple. Il faudra se référer à la technologie moderne, comprendre aux banques de sperme. Mais tandis qu'elle commence à perdre espoir, un homme se montre intéressé par son texte. C'est l'éditeur Maurice Girodias, qui a publié Lolita, le festin nu et Histoire d'eau. Autant dire que sa réputation le précède. Et lui aussi vit au Chelsea Hotel. Souvenir de sa fille, Juliette, sur France Culture en 2019.
Moi-même, je l'ai croisée. J'étais donc dans cette chambre d'hôtel et puis il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. J'étais toute seule et donc j'ai vu cette femme qui était habillée un peu de briquet de broc, voilà, qui avait une drôle de dégaine et qui en même temps dégageait quelque chose de très intense parce qu'elle avait un regard particulièrement transperçant. Il y avait quelque chose d'extrêmement, presque un peu inquisiteur dans son regard brillant. Et puis, il y avait cette casquette qui lui tombait sur les yeux. Bon, elle m'a un peu impressionnée. Et puis, j'ai raconté cette rencontre à mon père plus tard dans la journée. Il m'a dit « Ah, c'est Valérie ». Dans cette petite phrase de mon père, je sentais qu'il y avait une sorte de... Il y avait de la chaleur. En tout cas, visiblement, je pense que c'était quelqu'un qui l'aimait bien.
Il l'aime bien, oui. Et il lui lance... Votre scum, je l'achète. Et Valérie enfin sourit. Elle sent son heure de gloire arriver. Et cette fois, ce ne sera pas un simple quart d'heure de célébrité. Or, peu à peu, voilà qu'elle se méfie. Car Girodias exige qu'elle lui cède tous ses droits d'auteur. N'est-ce pas le signe qu'elle est une fois de plus face à un homme qui abuse d'elle ? Nous sommes au printemps 68 et Valérie Solanas est sur une ligne de crête. Elle l'a compris. Signer avec Girodias, ce serait à nouveau se soumettre. Alors quoi ? recontacté Andy, et il n'a jamais remis la main sur sa pièce. Ou alors peut-être qu'il lui a menti. Peut-être même qu'il lui a volé sa pièce afin de la produire sous son nom à lui. Subrepticement, Valérie glisse dans la folie et dans la paranoïa. Le 3 juin 68, elle décide d'agir. À midi, elle se rend à l'Actors Studio pour demander à Lee Strasberg de la produire. Dans son sac, elle a glissé un Colt et un Beretta automatique. Mais hélas pour elle, Strasberg n'y est pas. Alors, furieuse, elle prend la direction de Brooklyn et sonne chez la productrice Margot Fedden, qui lui ouvre avec son enfant de 18 mois dans les bras. Valérie sort son arme, mais ne tire pas. Elle se contente juste de la prévenir qu'elle voudrait tuer Warhol. Puis elle s'en va. Immédiatement, Margot Fedden prévient la police, qui évidemment ne la croit pas. À 14h30, Valérie arrive à la factory. Là, elle tombe sur Paul Morisset, qui avait réalisé avec Warhol le film dans lequel elle avait joué. Et il a beau lui répéter qu'Andy n'est pas là, rien n'y fait. Valérie revient une fois, deux fois, trois fois. Enfin, la septième est la bonne, Andy débarque. Ça fait 2 heures qu'elle l'attend. Il fait chaud, elle est à bout de nerfs. Et de plus, l'accueil qu'il lui réserve est glacial. Il a rendez-vous avec le critique d'art, Mario Amaya, un ancien élève de Rodko, et il est pressé. Mais Valérie insiste et s'incruste avec lui dans l'ascenseur qui monte à la factory. Sur place, voilà qu'à leur tour, les assistants Fred Hughes et Paul Morisset lui demandent de partir. La suite se déroule en quelques secondes, tragique. Le téléphone sonne, Paul Morisset décroche et annonce que c'est l'actrice Viva qui veut parler à Andy. Témoignage, toujours dans le documentaire « J'ai tiré sur Andy Warhol » réalisé par Ovidie.
Quelqu'un a passé le combiné du téléphone à Andy. J'ai entendu une sorte de claquement au moment où il a dit « Viva !» et j'ai cru que c'était un coup de fouet. J'ai pensé « Mon Dieu, il joue à se faire fouetter !» Je n'ai pas pensé à un coup de feu.
J'ai entendu Andy crier « Non, non, Valérie !» Puis il y a eu d'autres coups de feu. À ce moment-là, j'étais sous le bureau, j'ai levé la tête et elle était juste devant moi. Elle avait déjà tiré sur Mario Amaya dans le dos alors qu'il tentait de s'enfuir. J'ai dit, Valérie, s'il te plaît, ne me tire pas dessus. Tu ferais mieux de partir. Alors, elle a reculé tout en continuant à me viser. Elle est partie.
Elle est partie après avoir jeté une serviette hygiénique par terre, façon de signer son geste. S'enfuit-elle à la manière d'un meurtrier en cavale? Aucunement. Son geste, elle l'assume. Alors, elle se dirige droit vers le premier policier qu'elle croise et elle lui déclare « I shot Andy Warhol ».
Valérie, pourquoi avez-vous fait cela?
Parce que c'est une ordure.
Vous savez qu'il peut mourir?
Bien.
Que pensez-vous qu'il peut se passer pour vous maintenant?
Aucune idée, je m'en fous. J'ai hâte d'aller en prison parce qu'il n'y a rien de bien ici à part des putains d'ordures.
Et tandis que Valérie explique son geste, c'est la panique à la factory. 2 balles de calibre 32 ont touché Mario Amaya dans le dos et 3 ont visé Andy. L'une d'elles a traversé son buste de part en part, touchant l'œsophage, le rein, le poumon, l'estomac et le foie. Il est 16h50 et durant quelques minutes, Andy Warhol est déclaré cliniquement décédé. Envoyé en urgence à l'hôpital Columbus, il est opéré 5 heures durant. Puis, miraculeusement, revient d'entre les morts. À son réveil, 3 jours plus tard, les premiers sons qu'il entend proviennent d'une télé située dans la chambre voisine. Et c'est une histoire de coup de feu, là encore.
Picture you see is that of Senator Kennedy lying on the floor, a crowd around him screaming, unbelieving that such a thing could happen.
Nous sommes le 6 juin 1968 et à Los Angeles, Robert Kennedy vient d'être assassiné. 2 mois plus tôt, c'était Martin Luther King qui tombait. Accablé par ces morts violentes, l'Amérique est traumatisée. Elle comprend que quelque chose de l'ordre de la candeur est en train de lui échapper. Que derrière la joie qui émanait de ces années 60, une part beaucoup plus sombre grondait. Ce qu'ultraviolet explique avec ces mots, Andy a représenté le rêve américain en même temps que son désastre. Un désastre qui, une fois de plus, poursuit Valérie. Elle aimerait tant être jugée normalement. Mais voilà qu'on l'envoie dans un hôpital psychiatrique de Queens. Diagnostic schizophrénie paranoïde. Il n'empêche qu'au même moment, Girodia s'en profite pour publier son scum sans lui payer aucun droit d'auteur. Un an plus tard, et bien qu'Andy ait refusé de porter plainte contre elle, Valérie Solana se retrouve devant la cour criminelle de Manhattan. Une femme est là, qui souhaite la défendre. C'est Florence Kennedy, une figure du mouvement féministe radical. C'est elle qui a défendu Black Panthers. Mais Valérie se révèle plus coriace qu'eux. Voilà qu'elle insulte Florence et préfère se défendre seule. La sentence tombe, 3 ans de prison. Que devient-elle lors de sa remise en liberté? Pas grand-chose, son texte est resté à la marge et ne lui a rien rapporté. Alors on la voit rôder entre l'hôtel Chelsea et la Factory. Témoignage de son ami de l'époque, Jeremiah Johnson.
Elle passait devant le Chelsea Hotel en faisant bang, bang, bang. Elle faisait pareil en bas de la Factory. Elle pointait Andy du doigt, Andy Warhol, bang, bang. Les gens en faisaient avec.
Les gens font avec, mais à la Factory, qui a changé d'adresse, tout a changé. Désormais, Warhol a peur, il se méfie. Les entrées sont filtrées, l'ambiance devient plus sourde, plus énigmatique. David Bowie s'en souvient. À l'intérieur, dit-il, tout le monde le regardait avec des yeux écarquillés. C'était juste après qu'on lui avait tiré dessus. J'ai donc rencontré un homme qui était un mort-vivant. Le teint jaune, avec une perruque qui n'allait pas. J'ai tendu ma main, mais il a retiré la sienne. Et j'ai pensé alors, à l'évidence, ce type n'aime pas la chair. C'est un reptile. Il était déjà hors du temps. Mais Warhol ne perd pas de vue le star system. Quelques mois après l'agression, il se fait prendre en photo, torse nu et cicatrice apparente, par le grand photographe Richard Avedon. Puis il déclare « Je suis tellement couturé que j'ai l'air d'une robe Dior. »
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, on a tiré sur Andy Warhol et on en parle avec notre invité Jean-Noël Liot. Vous êtes l'auteur de nombreuses biographies, parmi lesquelles Hubert de Givenchy, Madeleine Castin, Edmond Charleroux et donc Andy Warhol avec ce livre. Andy Warhol, Renard Blanc, un ouvrage publié chez Alary en 2021. D'abord, pourquoi ce titre, Le Renard Blanc?
Alors, Le Renard Blanc, c'est le surnom que lui donnait son amie, l'actrice Paulette Goddard. Et je trouve que c'est une trouvaille très fine psychologiquement, parce que Warhol était vraiment l'équivalent humain du renard, qui est un animal malin, curieux de tout, fouineur, qui ne cesse jamais d'explorer, mais que très peu d'humains parviennent à approcher et à connaître. Donc c'est pour moi, c'est un portrait robot de Warhol, et la couleur blanche, bien sûr, c'était l'allusion à sa perruque.
Mais dans votre livre, vous parlez aussi d'un docteur Andy et Mr. Warhol, un personnage à deux faces, en quelque sorte.
Oui. Alors ça, c'est ma théorie. C'est-à-dire que Andy Warhol a échoué à être un homme dit normal dans l'Amérique des années 50-60. Et il a pris le pouvoir en mettant en scène sa bizarrerie et ses excentricités. Donc il a créé ce personnage de peintre, pop art, immédiatement identifiable. Enfin, c'est comme Tintin, si vous voulez. Alors, avec cette perruque argentée, les lunettes noires, qui ne parle que par aphorisme ou par onomatopée. Et il en a fait une merveilleuse machine commerciale. Et dans les coulisses, il manipulait cette image. Mais pour moi, ça me fait penser, vous savez, à ce que disait Kundera, des écrivains, mais je l'applique à tous les humains, c'est que nous avons trois identités. La vie publique, la vie privée, la vie secrète. Donc la vie publique et la vie privée, c'est Mr. Warhol et Dr. Andy, mais la vie secrète, que j'ai essayé aussi d'obtenir dans le livre, c'est la lecture de son journal. Et c'est là l'homme complètement tragique, seul, et quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être malheureux tout au long de son existence.
Et vous l'avez croisé, je crois, vous aviez 20 ans, c'était à Beaubourg, c'est ça? Quel souvenir en gardez-vous?
Ben écoutez, je l'ai croisé, j'avais tout juste 20 ans, j'étais en Cagne, et ce qui m'a frappé, c'est le contraste qui existait entre l'image que j'avais de lui, cette espèce de diable new-yorkais qui manipulait tout le monde, et l'homme que j'ai vu, qui était tellement courtois, tellement élégant, qui parlait avec beaucoup de douceur à son entourage. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un mystère autour de cet homme, donc j'ai enquêté pendant une trentaine d'années, et surtout, ça a renforcé en moi mon idée de tordre le cou au cliché. L'image, souvent officielle, est tellement réductrice et tellement limitée, et j'ai essayé d'humaniser Warhol.
Alors, dans votre livre, parce qu'on va en venir à Valérie Solanas, hein, le récit d'aujourd'hui, donc dans votre livre, La Faculté des Rêves, l'autrice suédoise Sarah Strindberg défend l'idée que, au fond, Warhol et Solanas se ressemblaient, même enfance douloureuse, même défiance envers le monde de l'art, même désir de révolution. Vous partagez ?
Alors, je partage jusqu'à un certain point. Je trouve que c'est très juste, mais je pense que c'est bien pire dans le cas de Valérie Solanas. Parce que Warhol n'a pas connu le viol par son père, n'a pas été prostitué. La vie de Valérie est une tragédie absolue. Je pense que Warhol a eu d'immenses problèmes de santé liés à la pauvreté, mais il avait l'amour de sa mère. Et ça, ils ont formé une espèce d'aigle à deux têtes. Et ça lui a donné de la force pendant son enfance et son adolescence. Force et amour que n'ont pas eu Valérie Solanas.
Mais c'est ce qui explique qu'elle ait pu entrer à la Factory alors qu'elle était ni mannequin, ni chanteuse, ni même une fervente admiratrice.
Alors, cette Factory, c'est intéressant parce que c'est une cour des miracles. C'est-à-dire qu'il y a le côté mannequin, actrice, chanteur, tous ces gens très beaux, mais il y avait aussi le côté grotesque. C'est-à-dire qu'il avait des gens autour de lui comme Taylor Mead, par exemple, qui était une espèce de poète un peu clown, à qui il avait demandé de jouer le rôle de Tarzan, mais dans une parodie de Tarzan, ou des travestis comme Mario Montes. Tous ces gens étaient grotesques, et pour lui, Valérie Solanas était une marginale un peu grotesque qui était face à Nico ou à Marisa Berenson, c'est-à-dire les grandes beautés de la Factory. Donc, il y avait un rôle d'équilibre et de déséquilibre permanent à la Factory qui était mis en scène par Warhol, et elle s'inscrivait dans cette mise en scène, à mon avis.
Oui, et la plasticienne ultraviolet qui a ces phrases terribles hein, que vous rapportez dans votre livre, et elle dit pourquoi des adultes plutôt intelligents en vinrent à devenir les esclaves du roi Hongdi. Se vengeait-il d'une jeunesse triste, humiliante? Nous étions tous et toutes fous de lui. Vouloir être à ses côtés était une obsession, et pourtant il était une sorte de bourreau. Que veut-elle dire?
Alors, c'était un peu le syndrome de Stockholm. Ils étaient amoureux de leur bourreau. Mais alors, cette image du bourreau, moi je l'ai nuancée, parce que il a attiré beaucoup de marginaux qui voulaient utiliser son aura et sa célébrité pour eux-mêmes devenir célèbres. Moi, j'ai interviewé dans le livre des gens très sérieux, comme l'historien de l'art John Richardson,
oui,
qui est le biographe de Picasso.
Et lui dit...
qui, eux, le contraire.
Oui, je vous coupe.
Il était un homme très calme, loyal, cultivé. voilà, il n'y avait aucun problème avec lui.
Oui, enfin, je vous coupe, pardon. Il dit justement, Richardson, ces gens étaient des adultes. Personne ne les obligeait à venir à la Factory. Certains d'entre eux étaient très narcissiques, ne pensaient qu'à devenir célèbres grâce à lui, et personne, encore une fois, ne les obligeait à se droguer.
Exactement. C'est un résumé. Si vous voulez, moi, j'ai essayé de trouver l'équilibre entre ces deux théories, entre des gens qui me disaient ça et qui disaient il ne faut pas non plus noircir Andy. Il a certainement utilisé ça, mais ces gens venaient à lui d'une manière totalement volontaire. Il n'a jamais cherché à attirer qui que ce soit à lui.
Et il se droguait, lui aussi?
Alors non. Alors il prenait des coupes fins à base d'amphétamines, et puis tout au long de sa vie, il a pris beaucoup de somnifères parce qu'il ne dormait pas, il prenait des excitants qu'il mélangeait à de la vodka, mais sinon il se tenait à distance de toutes les drogues.
France Inter. Affaires sensibles.
Jean-Noël Liu, quels sont les rapports d'Andy Warhol avec les féministes radicales de cette période, voire ultra radicales comme Valérie Solanas?
Alors, il les tenait à distance, parce que pour lui, c'était une forme de violence qu'il craignait. Et surtout, sa vision de la femme était le contraire. Elle a été modulée, comme vous en avez parlé dans votre introduction, par Hollywood, par les stars de cinéma. Et donc, il recherchait surtout des femmes extrêmement belles, féminines, douces, glamour, le contraire absolu de Valérie Solanas. Mais comme il en mesurait la valeur décorative aussi dans sa Factory, c'est pour ça qu'elle était là. Mais sur le plan humain, je pense qu'il se tenait véritablement à distance de ces femmes.
Et qu'est-ce qui fait qu'il ait refusé de produire la pièce de théâtre de Valérie Solanas, dont le titre, rappelons-le, Apia, ça veut dire « dans ton cul ». C'est assez amusant d'ailleurs de pouvoir dire des choses comme ça à l'antenne en toute impunité.
C'est sûr.
Est-il exact qu'il ait craint, quand même avec ce titre, un coup monté du gouvernement pour fermer la Factory?
Alors ça, plusieurs personnes me l'ont dit aussi. Il l'a écrit, on s'est demandé si c'était une légende urbaine ou pas. Il paraît que c'était vrai. Qu'en fait, il trouvait que c'était tellement outrancier. C'est le problème de Valérie Solanas. C'est la limite de l'exercice. C'est qu'en fait, ses textes, littérairement, n'ont pas une très grande valeur. Ce sont les concepts. Elle est une féministe pure et dure, une pionnière, mais elle n'a pas su avoir les instruments littéraires pour faire passer ses messages. Elle se contentait de torrents d'injures quand elle parlait ou dans ses écrits. Et c'est là ce qui a malheureusement, ce qui lui a joué un sale tour, à mon sens.
Alors arrive justement le jour du drame, le 3 juin 1968, on va écouter une archive, c'est l'historien de l'art Alain Cueff qui parle, il évoque les conséquences de cet événement au micro de France Culture dans l'émission Une histoire particulière.
Il a raconté la scène dans Popism, c'est une après-midi d'été, tout va bien. Il revient de déjeuner, il rentre à la Factory avec plusieurs amis, Valérie Solanas fait irruption, et... tout d'un coup, Valérie Solanas sort un revolver et vise Warhol. Donc elle a évidemment préparé son attentat, ou en tout cas elle a pensé à la succession des gestes qu'elle allait accomplir, et elle n'hésite pas une seconde, tout ça semble s'être déroulé de façon très rapide. Il est passé très près de la mort. Et il va évidemment, sinon s'identifier, en tout cas penser au fait qu'il est revenu d'entre les morts. Il a ressuscité. Si on accepte d'être cynique pendant une seconde, c'est une chance extraordinaire que d'avoir été révolvérisé par Valéry Solanas pour lui. C'est le couronnement de la mythologie à laquelle il a œuvré depuis toujours.
C'est vrai que quand on prend une balle et qu'elle ne vous tue pas, ça peut être bon pour l'image. C'est une chance d'avoir été révolvérisé.
Ah non, pour moi, c'est une pure folie d'entendre ça. Là, c'est une espèce de cynisme parisianiste, d'historien de l'art. La folie de sa vie a été un enfer, tant sur le plan psychologique que corporel. Il a souffert le martyr, il avait peur en permanence, l'estomac avait été détruit, il portait des corsets chirurgicaux, ça a été la fin de sa libido à l'âge de 39 ans. Il avait tellement honte de son corps qu'il ne s'est plus jamais montré devant quiconque. Non, mais c'est véritablement quelque... Et quand, jusqu'à sa mort, on l'opère en février 87 de la vésicule biliaire, les chirurgiens, en ouvrant le corps, il y avait tellement d'adhérence à cause de l'attentat de Solanas que l'opération a duré des heures et que c'est certainement une des raisons qui fait qu'il y est resté. Donc je pense que c'est quand même un cauchemar. Alors lui, essayez d'en rire. C'est-à-dire que les journalistes, au fil des années, ne manquaient jamais de lui rappeler. En 75, un journaliste lui a demandé si cette tentative d'assassinat avait changé sa vie. Et Warhol, avec sa petite voix, avait dit « Oui, j'ai cessé de voir des gens imaginatifs ». Donc, il essayait de s'en tirer toujours par une pirouette, mais c'était véritablement l'enfer. Et tous les gens qui m'en ont parlé, alors on parlait d'ultraviolet, elle a ajouté une note que personne ne m'a donnée. C'est-à-dire qu'elle a dit, effectivement, à mes yeux, une part de lui était morte dans cette tragédie et la peur est devenue le fond de sa personnalité, mais elle a émergé une bienveillance et une indulgence chez Warhol qu'elle ne connaissait pas auparavant. Elle l'a vu particulièrement d'ailleurs à propos de Nico. Elle a complètement aidé Nico pour son album, son premier album seul, parce que évidemment ça s'est tellement mal terminé avec Lou Reed. Et donc elle a vu cette gentillesse, cette douceur chez lui qui n'existait pas à ses yeux avant l'attentat.
Et comment comprendre en retour qu'il ait refusé de porter plainte contre elle,
hein? Ça, pour moi, c'est ma théorie, c'est la politique de déni. Chez Warhol, si on ne parle pas des choses, si on les élimine, ça n'existe plus. C'est la mort. Il n'a jamais assisté il détestait la mort, il n'est même pas assisté au obsèques de sa mère, il éliminait. Il éliminait tous les gens qui lui posaient problème, comme ça il n'existait plus. Il laissait les autres régler les sales affaires à sa place. Et donc là, on ne parle plus de Valérie, on ne va certainement pas entrer dans un procès où on va en reparler pendant des jours et des jours, il éliminait ça de sa tête.
Et d'ailleurs, Valérie Solanas le dit, elle dit « Comme c'est charitable, c'est surtout qu'ils voulaient tous éviter un procès, ils voulaient me faire taire, alors ils m'ont fait passer pour folle. »
Oui, cela étant, elle était folle, elle était terriblement abîmée. Je pense que vraiment, elle était dans une telle confusion. Tout ce qui s'est passé avec Gérodias, avec Warhol, il est vrai qu'ayant été violée enfant par son père, on peut imaginer les dégâts incommensurables chez cette femme. Mais à ce moment-là, elle est dans une confusion complète. Donc Warhol, et surtout, elle a quand même dit, parce qu'elle l'a redit par la suite, qu'elle espérait véritablement attirer l'attention sur elle, faire la une des magazines pour enfin monter et produire sa pièce. Donc, il y avait dans sa folie une sorte de petite logique intérieure, quand même.
Alors, que devient Warhol dans les années qui suivent? Bon, on a dit qu'il ne s'est pas remis de cette balle qu'il a prise, hein. D'ailleurs, oui. Ça me fait penser à Jean-Paul II et Ronald Reagan. Exactement. Qui s'en sont sortis. Mais oui, voilà, exactement. Ça a été vraiment un tournant dans leur vie. On les a vus.
C'est un tournant, hein.
Ouais,
certain.
Bien sûr.
Certain. Alors, ça donne d'ailleurs le prix de la force et du courage de Warhol, parce que jusqu'à sa mort à 58 ans, en 87, il n'a cessé de trouver de la force pour se renouveler dans l'énergie, dans la curiosité, dans la créativité. Bon, il y avait encore des films, il a créé le magazine Interview, il n'a cessé de proposer des nouvelles séries de tableaux, il a été l'un des pionniers de la vidéo, de la télévision pour les interviews. Il a fait beaucoup, beaucoup, il n'a pas cessé de travailler, et ça, vu de l'état dans lequel il était, à mes yeux, c'est un tour de force.
Alors, vous racontez, en décembre 68, à la veille de Noël, le téléphone a sonné à la Factory, et c'était encore Valérie. Elle avait été relâchée de l'hôpital psychiatrique, et elle demandait de l'argent à Andy Warhol pour ses frais d'avocat, mais elle exigeait aussi des invitations dans les talk-shows pour pouvoir donner sa version de l'histoire. Comment a-t-il réagi ?
Il était terrifié. Et Ultraviolet m'a dit que suite à ce coup de fil, dès que le téléphone sonnait, en fait, il était terrifié parce qu'il pensait qu'elle allait encore lui dire « Allô, Andy, c'est Valérie !» Et là, il mourait de peur. Et d'autant plus que d'autres, en 71, deux drogués armés sont venus à la Factory et ont menacé Joel Alessandro et son bébé. Donc, il y a eu encore quelques tentatives comme ça. Et donc, John Richardson m'a dit, où qu'il aille, il regardait si un fou, une folle allait lui sauter dessus. jusqu'à sa mort. C'est-à-dire de 68 à 87, vous imaginez vivre avec cette épée de Damoclès dans une peur permanente.
Décidément, cette
ça,
balle.
Valérie Solanas.
Décidément, cette balle a fait beaucoup de dégâts.
Oui, cette balle a fait beaucoup de dégâts, oui, au sens propre et figuré. Oui.
Vous racontez aussi qu'en 1971, il se venge des féministes radicales en tournant le film Woman in Revolt, son dernier film d'ailleurs, une sorte de satire du MNF américain dans laquelle il confie le rôle des femmes à des hommes ou à des trans, hein, la fameuse Candy Darling qui avait introduit Solanas à la Factory. Ouais. Mais alors le film ne trouve pas de distributeur et attise la colère des féministes. Est-ce que c'est le goût de la provocation d'Andy qui s'exprime ou l'expression de sa vraie pensée?
Je pense qu'il avait dit très drôlement, elles veulent être des hommes, alors pourquoi ne pas les faire jouer par des hommes? Je crois que ça résume assez bien sa démarche. Il a pensé, l'Amérique n'était pas prête. Autant quelques travestis dans un film joué par des acteurs hétérosexuels, ça pouvait passer, mais certainement pas à ce moment-là. D'autant plus que les films de Warhol, il faut quand même le dire, autant moi je suis un grand admirateur de sa peinture, surtout de la première partie, les films sont inregardables.
Oui, on n'y comprend rien, absolument.
Il vaut mieux en parler, non. Il vaut mieux en parler que de les voir. Il le disait lui-même. Donc, ce sont des concepts, en fait, il a essayé d'explorer ça aussi.
C'est un peu comme Yoko Ono et son exposition sur des mouches sur une vitre. C'est un peu ça, quoi.
Exactement. À un moment donné, il y a des concepts, mais le concept devenu réalité est assez pauvre, en fait.
On sait qu'elle finit par quitter New York, Valérie Solanas, hein, pour aller vivre en Arizona, puisqu'elle finit sa vie, de façon sordide d'ailleurs, en 88, dans un hôtel miteux de San Francisco. Mais alors lui, c'est tout le contraire. Pour autant, et en dépit de son immense gloire, est-il heureux? Certains disent que, d'un point de vue artistique, cette agression l'a rendu plus sombre, qu'il se met à peindre des séries d'ombres ou de crânes. En 1981, un portrait de la Vierge, puis il revisite la scène de Léonard de Vinci. Alors, est-ce exact? Ou alors, en quoi est-ce que le tir de Valérie Solanas a influencé son art?
Alors, à mon sens, ça a détruit sa vie privée. Je ne crois pas que ça ait véritablement influencé son art, parce que la mort est tellement présente chez lui bien avant. En 1950, il peint ce portrait d'un enfant chinois en pleurs dans les décombres de Shanghai au milieu des cadavres. Ça, c'est suite au bombardement japonais. Il y a toutes les séries des années 60, les débuts, les suicides, les accidents de voiture, les guillotines, la bombe atomique. Donc la mort est absolument omniprésente. Et je ne la vois pas plus présente après qu'avant. Par contre, sa vie privée est à jamais détruite, ça c'est certain.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jean-Noël Liot.
Merci
je rappelle le titre de votre livre, Andy Warhol, Le Renard Blanc, livre paru aux éditions Alary en 2021. Merci, au revoir.
Merci, bonne journée, au revoir.
C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, on a tiré sur Andy Warhol, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tito en la barre.